pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau ou autre. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24, nettoyage d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent à la Coupe du Québec de vélo de montagne à Saint-Félicien en fin de semaine et vous invite à voter en très grand nombre pour la candidature de Saint-Félicien dans le cadre du projet Kraft Hockeyville.
On va parler de baseball, mais ce coup-là, ce ne sera pas avec nos collaborateurs habituels, ni Jacques Doucet, ni Marc Griffin ou Bruno Boudreau. C'est Gaétan Alibert, qui est un Français qui fait des podcasts sur le baseball en France. Et il participe à trois podcasts sur le baseball. Et on va lui parler là-bas. Salut Gaétan!
Salut Denis!
Gaétan, tu te situes où? Hein? Tu te situes à Paris, géographiquement, situes-nous où est-ce que tu te trouves actuellement en France?
Moi, je suis quasiment au centre de Paris. Pour ceux qui connaissent Paris, je suis pas loin du Grand Rex, les grands boulevards, pas loin de Châtelet-Léal, donc vraiment très proche du centre même de Paris.
OK. Et là, moi, je t'appelle parce que je voulais savoir, ça fait depuis l'année passée que... Moi, j'ai accès à BIN France, OK? Je te dirais tout de suite, là, à toutes les BIN. Puis j'ai regardé le baseball à BIN, puis je trouvais ça drôle un peu. J'ai essayé un petit peu de rentrer en contact avec les commentateurs, j'ai pas été capable. Et finalement, j'ai vu que tu animais un podcast sur le baseball majeur en France. Je voudrais savoir, le baseball en France, ça doit être populaire à peu près comme le rugby ici au Québec. Ça veut dire pas du tout. Est-ce que c'est ça que...
Alors, le baseball en France existe depuis très longtemps. C'est les premières traces de baseball, elles remontent au 19e siècle. Donc, il y a déjà 150 ans de baseball en France, mais avec des hauts et des bas. Ça fait quelques années où on commence à revenir vers le haut, c'est-à-dire que le baseball retrouve un petit peu des couleurs, que ce soit au niveau des clubs, du nombre de licenciés, et puis aussi au niveau de la médiatisation. Alors, c'est à la fois parce que effectivement la fédération et les clubs ont fait des efforts, parce qu'on a eu aussi le cas Mélissa Mailleux qui a défrayé la chronique en 2015 quand elle est devenue la première femme éligible sur une liste internationale MLB. Et puis, ça y est, depuis quelques années, beIN Sport diffuse des matchs de MLB, l'équipe, donc qui est le grand quotidien du sport en France, quasiment le seul quotidien multisport d'ailleurs en France, parle de plus en plus de la MLB, surtout sur son site internet. Okay. Et puis la communauté aussi s'est développée pas mal.
Dis-moi, est-ce qu'en France, est-ce qu'il y a des équipes compétitives? Y a-t-il une ligue? Comment ça fonctionne?
Oui, il y a une ligue. Alors, il y a une première division qui existe depuis très longtemps. On reste du baseball amateur, avec parfois des difficultés pour les équipes de pouvoir apporter, on va dire, les moyens financiers pour rester en première division. C'est vraiment purement amateur, avec ça marche au niveau des licences, des subventions, mais c'est assez compliqué. Mais il y en a quand même depuis plusieurs décennies de première division. Donc, il y a un champion de France. Il y a d'autres divisions nationales dessous, plus des divisions régionales. Actuellement, on est à peu près à 210 clubs de baseball et de softball en France, environ 13 500 licenciés. Et les équipes françaises, elles sont, on va dire, de niveau NCAA. Alors, les meilleures équipes françaises, quand elles sont vraiment dans de très bonnes années, on est vraiment sur la NCAA Day One, bien. Pas des super fortes équipes qu'on pourrait trouver en college baseball, mais des bonnes équipes. Et puis, bon, les équipes qui sont en fin de première division, elles, c'est un peu plus poussif. Mais on a des clubs comme par exemple les Huskies de Rouen qui dominent le championnat depuis un certain nombre d'années, qui même sur la scène européenne sont capables de battre les meilleurs clubs qui sont généralement les clubs italiens et les clubs néerlandais qui sont les deux nations qui dominent totalement le baseball européen depuis plusieurs décennies.
Dis-moi Gaétan, est-ce que tu dis, ça m'accroche le baseball, les équipes de baseball en France pourraient être aussi compétitives qu'une équipe de la NCAA Division 1? Est-ce que t'as des recruteurs qui vont en France, des dépisteurs pour trouver le talent ou pas du tout?
Dépisteurs
de la LNB, je te parle là.
Ouais, alors ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que déjà, les clubs français ben, recrutent ce que nous on appelle des imports, donc
Ouais.
des joueurs venus de l'étranger. Alors généralement, ça, c'est des joueurs issus soit du collège baseball nord-américain, et d'ailleurs, de temps en temps, on a des Québécois qui viennent
Éric
jouer en
Gagné, je
France.
pense, a déjà été, je pense, a déjà fait une collaboration avec l'équipe de France, si je ne m'abuse, hein.
Exactement, que ce soit d'ailleurs au niveau joueur, au niveau staff, on a eu pas mal d'échanges avec le baseball québécois. Ça peut être aussi des joueurs qui ont joué en ligue mineure. Après, ça peut être des joueurs qui ont joué pro au Venezuela, qui ont joué en première division cubaine. Donc, on fait venir quand même des joueurs de grande qualité, ce qui permet justement à ces équipes d'avoir quand même un bon niveau de jeu. Et puis, de temps en temps, on a un joueur français qui arrive à être dans le radar de la MLB, on a certains joueurs qui ont signé des contrats en ligue mineure. Alors, on n'a toujours pas de Français en MLB, mais on a plusieurs joueurs français qui ont signé des contrats en ligue mineure.
Le français qui s'est rendu le plus loin jusqu'à maintenant, c'est qui? Parce que je sais que c'est une longue marche. C'est une marche énorme, là. Écoute, c'est pas pour rien qu'il y a des Québécois. C'est très rare pour des Québécois. Puis nous, on a une mentalité de baseball beaucoup plus que vous autres en France. Et on a Abraham Thoreau actuellement qui joue avec les Astros de Houston. Il y a Charles Leblanc qui est aux portes. Mais il n'y en a pas ben ben. Donc le français qui s'est rendu plus loin, c'est qui?
Alors, il y a, entre guillemets, trois types de Français. Il y a celui qui n'a jamais vécu en France, qui souvent qui a un ou deux parents français, mais qui a vécu aux États-Unis, qui donc a un double passeport franco-américain.
Ouais.
Certains ont joué en équipe de France lors de la Wasbar Blanc Classic, ou auraient dû jouer d'ailleurs dans la dernière, qui a été annulée, et eux ont pu, pour certains, jouer en Triple-A, voire faire quelques piges en Major League Baseball. Il y a notamment, je crois, Scott Alexander, qui est un releveur si je dis
OK,
pas des
il est
bêtises,
d'origine
des
française, mais
Dodgers.
il est pas vraiment un français qui parle
Mais voilà.
français, là.
Après, il y a les Français en fait qui viennent de l'île de Saint-Martin ou de Curaçao quand on est
OK.
côté néerlandais. Alors c'est vrai que Curaçao a donné des grandes stars comme Didi Gregorius ou Jerison
OK.
Profar. Nous en France, on a eu par exemple René Lévrier qui est arrivé, je crois, en double A ou en triple A. Et après, pour les joueurs qui ont vraiment été formés, qui sont nés en France, qui ont été formés en France, là généralement ils sont pas allés de mémoire au-delà du simple A, par
OK.
exemple. Voilà. Donc effectivement, il y a quand même encore un gap assez important avant qu'on puisse voir un Français formé en France, qui a joué en minime, en junior ou en première division française et arrivé en MLB. C'est pas pour de suite.
Est-ce que les associations, l'association française, moi je pense que quelque part pour monter leurs membres devraient peut-être pousser davantage pour pousser un Français et en cibler un ou deux et lui donner le maximum d'efforts pour le pousser jusqu'au majeur. Et par la suite, c'est ça que ça ferait, hein. Souvent, un ou deux joueurs fait en sorte que les jeunes s'identifient et s'inscrivent à un sport. Et on l'a vu au tennis, Eugénie Bouchard, je ne sais pas si tu la connais, Eugénie Bouchard était très, très. En 2014, la Fédération canadienne de tennis l'a poussée. Et on a vu plusieurs joueuses de tennis arriver suite à la performance d'Eugénie. Est-ce que ça, du côté de la Fédération française de baseball, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager?
Ah, c'est compliqué parce que
Ouais.
on est dans le système français, voilà, c'est un système associatif. Avec des élections où chaque club a une ou plusieurs voix. Donc un président de fédération, il fixe un cap, mais il doit quand même répondre aux intérêts de tous. C'est-à-dire qu'il doit à la fois répondre aux intérêts du baseball loisir, du baseball jeune,
Ouais.
du baseball régional, et puis le haut niveau, la première division, l'équipe de France. Et c'est pas évident parce que le président actuel, Didier Séminé, a repris il y a quelques années une fédération qui était au bord de la faillite.
OK.
Du coup, qui ne pouvait pas investir tout ce qu'elle voulait, que ce soit dans le développement du baseball de masse ou dans le baseball de très haut niveau. Néanmoins, le pari qui a été pris par la fédération depuis quelques années, quand même, c'est de jouer un petit peu sur les deux tableaux, notamment c'est dans de la MLB. C'est-à-dire qu'on a des coachs MLB qui viennent en Opel France voir nos meilleurs joueurs, donner des conseils. Il y a les tournois inter-académie organisés par la MLB justement pour voir les meilleurs athlètes européens en termes de baseball. C'est là d'ailleurs que Mélissa Mailleux avait défrayé la chronique en 2015 en étant la seule et encore aujourd'hui la seule fille à participer à ce rassemblement. Et puis il y a l'idée aussi d'avoir vraiment poussé pour participer à la World Baseball Classic. Alors on s'est toujours pas qualifié pour les tours principaux, mais ne serait-ce que de déjà faire partie des qualifiers, ça permet à la France de temps en temps de jouer vraiment avec ce qui peut se faire de mieux, parce qu'on là les joueurs français affrontent des joueurs qui sont professionnels. Souvent en ligue mineure, parfois même des major leagueurs, en tout cas des anciens major leagueurs. Et du coup, voilà, la fédération essaye pour l'instant d'être à la fois dans un développement de masse. Et c'est vrai qu'on a gagné quasiment le double d'effectifs en moins de 10 ans, ce qui est assez important parce que c'est quand même la masse aussi qui permet de trouver, on va dire, les pépites qui peuvent aller très loin. Et puis de mettre nos jeunes joueurs dans les meilleures conditions. Et puis ces dernières années, ça s'est surtout passé par des accords pour permettre aux jeunes pépites françaises d'aller jouer en collège baseball, notamment en Duco pour commencer, et pour que ça puisse leur ouvrir justement ensuite les portes de la NCAA.
Ok, donc c'est quand même très très intéressant. Est-ce que Robert Manfred, vu que c'est lui son but, c'est de commercialiser le baseball, l'internationaliser le baseball, déjà est-ce que l'association, là tu me l'as dit, on fait des cliniques, mais t'as-tu vu vraiment depuis que l'arrivée de Manfred une différence?
Alors, quoi? Ah, je pense que c'était que ça a commencé sous Selig, parce que la France a été invitée au premier qualifier, c'était en 2012 pour la World Baseball Classic, et on savait déjà à l'époque que si la France était invitée, c'était pas pour son niveau sportif en baseball, qui était encore très bas, même si depuis il s'est amélioré, mais c'était vraiment parce que la France représente un marché. Voilà, quand vous avez 67 millions de consommateurs potentiels dans un des pays les plus riches du monde, forcément dans le cadre de l'internationalisation de la MLB, c'est intéressant commercialement et c'est intéressant aussi sportivement parce que la France, ça reste un pays de sport. C'est pas forcément un pays très sport au niveau culture par rapport par exemple aux États-Unis ou au Canada ou à la Grande-Bretagne, mais c'est un pays qui met en place quand même des structures étatiques ou associatives sportives qui permettent à la France de briller dans le foot, dans le rugby, dans le hand, dans le volley, dans les sports individuels. Donc forcément, et puis en plus la France c'est vendeur, c'est-à-dire la marque France c'est vendeur. Donc on sait que voilà, on fait partie des cibles de la MLB dans cette globalisation, et on espérait, avec le Covid c'est un peu compromis, mais c'est vrai qu'on espérait peut-être de voir en 2021 voire 2022 des Paris Series comme on a vu des London Series de l'année dernière. On sait que la MLB a depuis longtemps pris contact notamment avec le Stade de France et la Fédération Française pour voir s'il était possible techniquement de faire des matchs à Paris. Voilà, on sait que la France est quand même sur les tablettes de la MLB. Après je dirais que je regrette que la MLB soit pas aussi agressive que la NBA l'a pu être au niveau de cet aspect international.
Ok. Moi, je verrais bien quand même les Capitales de Québec, ça dit-tu quelque chose?
Oui, bien sûr. On a eu des joueurs français qui ont joué là-bas.
Moi, je verrais Anthony bien Croix, un match entre l'équipe nationale française et les Capitales, match sur concours.
Ah ben oui, après, ça serait intéressant. Après, ça c'est à la fédération de voir. De toute manière, la fédération elle est en contact avec Baseball Québec, à la fois parce qu'on a créé la fédération a créé une association francophone de baseball et de softball, que de toute manière les liens entre le Québec, enfin, le baseball québécois et le baseball français sont quand même assez anciens. Les premières tournées outre-Atlantique faites par des équipes françaises, je pense par exemple au PUC, c'était dans les années 60 ou 70, c'était au Québec. On a eu pas mal de joueurs qui sont partis à l'université au Québec ou jouer effectivement pour les Capitales ou les Aigles de Trois-Rivières. Donc voilà, les liens, ils existent. Et puis, on a eu effectivement des coachs et des joueurs qui sont venus en France. Parfois même, sont restés en France. Je pense à Robin Roy au niveau des Huskies.
OK. Gaëtan, je veux parler de ton podcast. T'as deux podcasts. C'est le même que je t'ai connu. Parle-moi de tes podcasts. Donc, il y en a un que c'est uniquement sur la LMB, c'est ça?
Alors, bah en fait, j'en ai trois. J'en ai un sur la MLB qui est celui qui est avec le site The Strikeout, donc
Ouais.
qui pardon, a été créé en 2016 et qui est un peu le symbole de cette nouvelle médiatisation de la communauté de fans de baseball en France. Donc là, on parle que de MLB dans les podcasts et puis on parle aussi de baseball français et international au niveau des articles.
Est-ce
Et
que
aussi.
c'est connu? Est-ce que c'est écouté? Est-ce que c'est
Alors, ben les podcasts, on s'y remet, mais on sait qu'ils sont appréciés pour la qualité. En tout cas, on essaie d'être dans la qualité au niveau des propos, des analyses que l'on tient. Après, c'est vrai que c'est The Strikeout qui, au départ, à travers son compte Twitter, a permis l'émergence aujourd'hui d'une véritable communauté, notamment sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitter. C'est-à-dire que débarque The Strikeout sur Twitter, on n'est pas beaucoup. J'avais un compte personnel, mais on n'était pas beaucoup à parler MLB en France. Et puis, depuis, quasiment toutes les équipes MLB ont un compte fan, les Yankees, les Red Sox, les
Ouais.
Brewers. Etc. Donc voilà, The Strikeout a vraiment lancé quelque chose. Avant ça, il y avait un autre site qui s'appelait Onus qui traitait surtout de la culture et de l'histoire du baseball et qui permet d'aborder cette matière-là. Mais en matière d'actu, il n'y avait pas grand-chose et à l'époque, les médias français n'en parlaient quasiment pas. Maintenant, ça commence un petit peu à en parler et c'est plutôt pas mal. Et puis, sinon, il y a aussi d'autres podcasts, dont celui que j'ai créé, qui s'appelle Culture Baseball, où là, vraiment, on
OK.
traite de l'histoire de la culture du baseball, et qui est une manière aussi quand même de parler de la MLB, mais de parler, on va dire, de son histoire et de la culture populaire qu'il y a autour de la MLB. Et puis on a Hype, qui parle des sports US,
Ouais.
des quatre, des cinq, parce qu'on rajoute la MLS dedans, mais voilà, des cinq sports US majeurs actuellement, mais là qui permet, parce qu'on a des chroniqueurs qui sont journalistes professionnels ou des athlètes professionnels en basket ou en hockey, qui permet d'avoir une audience un peu plus soutenue. Enfin voilà, ça c'est un peu un marchepied pour qu'on parle de la MLB à travers des sports qui en France ont un peu plus de médiatisation, particulièrement le basket qui en France
Ah, c'est très
est
populaire le
le
basket
sport le
parce que
plus médiatisé.
moi je parle pas beaucoup anglais, je comprends pas beaucoup l'anglais, mais je vais beaucoup me ressourcer, je vais prendre mes informations sur les sites français comme Basket USA, je sais pas si ça dit quelque chose
Oui, bien sûr. Bon, on a un chroniqueur de basket USA,
Basket
notamment.
USA, donc c'est là-dessus que je vois, puis c'est très très complet, puis l'information est très très bonne, puis la NBA en France, écoute, j'ai BN France moi, puis il y a des matchs quasiment tous les jours. Donc c'est pour te donner
Ben,
une idée.
l'NBA en France est vraiment extrêmement important, c'est extrêmement populaire chez les jeunes, et voire même les moins jeunes. C'est certainement après le foot, un des sports collectifs qui fait le plus parler en France. Donc, c'est vrai que la NBA a bien réussi son marketing international, notamment en France.
Dernière question, Gaétan. L'an dernier, Robert Manfred et le baseball majeur ont fait une incursion en Angleterre pour jouer des matchs de saison régulière. C'était les Red Sox contre les Yankees. Cette année, ça a été annulé. C'était les Cards contre les Cubs. Je m'abuse qui devait être là. Est-ce que d'ici 5 à 10 ans, est-ce qu'il pourrait y avoir des matchs en France de la saison régulière de la NMB? Ou même un match en concours? Sûrement qu'on va commencer par un match en concours, mais est-ce que c'est envisagé parce que par la Fédération française, est-ce qu'il y a eu des contacts là-dessus?
Ouais, alors comme je disais tout à l'heure, il y a eu des contacts. Le stade qui était visé, c'était le Stade de France.
OK.
Stade qui est vraiment dans la banlieue proche de Paris, qui serait en capacité, comme le London Stadium, d'accueillir des matchs de la MLB. Donc il y a des contacts qui sont assez anciens, mais qui étaient beaucoup plus pressants et beaucoup plus importants, forcément, avec l'arrivée des London Series, parce que là, ça matérialise quand même la volonté de la MLB de proposer du baseball, de la MLB sur le sol européen. Alors après qu'ils aient choisi Londres, c'est tout à fait normal. Londres a une habitude d'accueillir des matchs hors concours ou de saison régulière de ligues majeures américaines. Mais voilà, là, ça a vraiment matérialisé quelque chose. Et l'espoir qu'on avait, qui n'était pas un espoir fou, hein, qui était véritablement envisageable, c'était qu'après les deux London Series, donc celui de l'année dernière auquel j'ai pu participer et celui de cette année qui a été annulé, c'était éventuellement peut-être de voir des MLB Paris Series en 2021 ou en 2022. En tout cas, les contacts, ils étaient pris. Le terrain, il est trouvé. Je pense que la France, elle est naturellement le deuxième marché visé après la
Même avant
Grande-Bretagne.
l'Allemagne, même avant l'Allemagne.
Ben, je pense oui, parce que à la fois la France et Paris c'est plus sexy peut-être que l'Allemagne. Je suis désolé pour nos voisins allemands. Comme je dis, c'est une marque quand même assez importante. Même si c'est vrai que le baseball est très développé en Allemagne aussi, hein, mais je pense qu'il y a, il y a un, voilà, il y a un marché assez important en France. Et puis Paris est central. C'est-à-dire que Paris permet effectivement par les moyens de transport de faire venir les gens des îles britanniques, du nord de l'Europe, du sud de l'Europe, de l'est de l'Europe. Peut-être une position géographique plus avantageuse que l'Allemagne pour, on va dire, un deuxième pays. Après, peut-être que l'Allemagne a aussi eu des contacts, ça je ne sais pas. En tout cas, les contacts avec la France étaient assez sérieux. À voir ce que le Covid.
Est-ce que là-bas, elle voyagerait autant? Parce que l'an dernier, c'était quasiment ridicule là, entre les Red Sox et les Yankees. Est-ce que là-bas, est-ce que ça serait plus adapté, le stade serait plus adapté que le stade de. C'était stade Wembley, je pense, à Londres l'année passée qui dit.
Ah, bah, alors après, je sais pas, nous, on a, alors peut-être qu'on n'a pas le même regard en Europe. Nous, on a, enfin, les gens qui ont participé aux deux rencontres étaient extrêmement ravis. C'est vrai qu'il y avait une ambiance à la fois baseball et soccer, football pour nous. Pour nous, c'est football, c'est vrai football, c'est avec les pieds. Et c'est vrai que l'ambiance a été géniale, même si je sais que la logistique a été compliquée. C'est vrai que par rapport à un stade normal de baseball, c'était particulier. Après, je pense que le souci n'était pas vraiment le stade, mais c'était plutôt le voyage. On a vu que le voyage a beaucoup nuit à la forme des athlètes, et notamment sur le premier match, moi c'est lequel j'ai assisté le samedi. C'était vraiment slugfest, ça partait dans tous les sens. Les lanceurs ont eu beaucoup de mal. Les deux partants se sont fait
Ah, c'est
fracasser par
incroyable.
les. Et là, je pense que c'est vraiment dû au voyage. Mais après, que ce soit Londres ou Paris, il y a quand même de quoi recevoir les équipes dans des bonnes conditions. Et d'ailleurs, en janvier dernier, on a reçu des matchs de saison. Et c'est là aussi une première en Europe, une première en France, peut-être en Europe, je sais pas, mais en France, oui, de la NBA. Et ça a été un succès.
Ça me
J'ai
rappelle.
prévu de revenir normalement l'année prochaine si la crise sanitaire le permet.
Michael Jordan était là, les Hornets de Charlotte, effectivement. Gaëtan,
Michael Jordan fait un gros travail sur Paris depuis un certain nombre d'années. C'est, on va dire, une de ses bases d'attaque pour
oui.
pour ton marketing.
Merci beaucoup, Gaëtan. Fort intéressant. On pourrait peut-être reprendre ça de temps en temps pour voir un peu
Avec grand plaisir.
le baseball. Fait que parlons un peu de la NMB, comment tu vois la saison. Là, on a parlé beaucoup de la structure, mais de temps en temps, ce serait le fun de te parler.
Avec grand plaisir.
Gaëtan Liber, qui anime des podcasts en France sur le baseball et qui nous parlait un peu de la popularité du baseball et de la NMB en France.